Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Après une saison en enfer, voire une saison et demie, l'Opéra de Paris se projette vers l'avenir, un avenir où les nuages disparaissent, un ciel bleu peut-être, comme cette nouvelle brochure 2021-2022. Nouvelle saison présentée hier, 13 reprises, 7 nouvelles productions, la création mondiale d'un ballet. Et cette nouvelle saison, c'est votre première programmation. Alexandre Derneff, bonjour.
Bonjour.
Nous allons la parcourir jusqu'à 9h. Vous êtes notre invité, directeur général de l'Opéra National de Paris. D'abord, aujourd'hui est une date importante. On le sent même en circulant dans Paris ou de n'importe quel autre endroit en France. La vie en extérieur reprend, les terrasses qui rouvrent, les spectacles également. Pour vous, à l'Opéra de Paris, c'est le viol de Lucrèce de Bruytène avec l'Académie de l'Opéra au Bouffe du Nord. À partir de ce soir, en public donc jusqu'au 29 mai. Et puis dès vendredi, une création mondiale, Le Soulier de Satin de Marc-André d'Albavy, d'après Claudel, et ça, ce sera jusqu'au 26 juin. Et puis ensuite, d'autres spectacles, ballets, concerts symphoniques, Tosca, la Clémence de Titus. Alexandre Derneff, comment l'Opéra de Paris, comment vous-même abordez-vous cette remise en marche de cette fin de saison?
Avec beaucoup de joie, une vraie joie de pouvoir reprendre les spectacles devant un public. Nous n'avons jamais arrêté de travailler depuis la rentrée de septembre, mais malheureusement pour la plupart sans public, pour effectuer des captations, pour garder le lien avec le public, avec les captations, les mises en ligne, les activités virtuelles, mais de vraiment retrouver un public en salle, c'est, la joie est immense, vraiment, et on sent un peu la liberté qui reprend.
Ces captations avec cette plateforme qui a été mise en place à la faveur de ces confinements, au moment de ces confinements, ça s'appelle l'Opéra chez soi. Est-ce que cette plateforme, créée pour voir les spectacles sans être dans la salle, y compris partout dans le monde entier, est-ce qu'elle est vouée à continuer?
Elle a été lancée pour durer. Ça, c'est sûr, ça nous permet effectivement de créer un lien avec des gens qui ne peuvent pas venir pour n'importe quelle raison géographique, culturelle, financière. Et c'est un lien que nous avons tenu à établir très vite pendant la crise, et c'est un lien qui va rester.
Cette fin de saison dont on parlait, vous évoquiez hier une sorte de mini-festival, c'est comme ça que vous le voyez? Le retour à la vie?
Le retour à la vie, et je pense effectivement il nous faut un festival pour ce retour à la vie. Et tout ce qu'on fait maintenant, ces retrouvailles, je pense qu'il y aura ce caractère festif et ce caractère joyeux. Les équipes, les artistes, tout le monde est vraiment impatient. Je crois que le public est impatient aussi. Et on a vraiment envie que cette joie dépasse la fosse de la scène dans la salle.
Qu'elle infuse dans toutes les scènes, les salles de l'Opéra de Paris. Dans cette nouvelle programmation, Alexandre Derneff, 2021-2022, de cette brochure Bleu Ciel, il y a plein de photos avec des gens, les femmes et les hommes qui font l'Opéra de Paris, le personnel, les artisans, les métiers techniques, les musiciens, les danseurs. Aujourd'hui, comment vont-ils ?
Bon, vous le savez, c'est une période très très longue et dure que nous avons traversée comme toute la société, je veux dire. Mais je viens de dire aussi, on n'a jamais arrêté de travailler. Mais du coup, de se remettre de ça, de reprendre l'activité, de retrouver notre sens, qui est quand même de se produire devant un public qui est physiquement en salle, c'est extrêmement important pour la maison.
Des personnels qui vivent pour l'art, comme Tosca, voici Vici d'Arte, qu'on pourra voir du 4 au 25 juin à l'Opéra Bastille, mise en scène par Pierre Audi. Ici, c'était à Bastille en 2014, et Tosca, c'est Martina Serafine.
Ci mai male, oh.
Des applaudissements qui donnent le frisson. Ça fait des mois qu'on ne les a pas entendus. On les entendra à nouveau à partir de ce soir au Bouffe du Nord à Paris pour le viol de Lucrèce avec l'Académie. Et puis à partir de vendredi à Garnier pour le soulier de satin. Alexandre Dornev, directeur général de l'Opéra de Paris, est notre invité. Tosca, donc, c'est en juin pour ce mini-festival Retour à la vie à l'Opéra de Paris. Et puis, cette nouvelle saison, votre première programmation présentée hier. Une première programmation, c'est un acte artistique, une pierre que l'on pose. Qu'est-ce qui vous a guidé, Alexandre Dornev, dans les choix de ces ouvrages artistiques? Il y en a 21 en tout.
Il y a 21 titres, dont 8 nouvelles productions. Et ce qui m'a animé vraiment, c'est de traverser les siècles, de proposer une programmation qui couvre presque toute l'histoire du genre d'opéra, mais aussi qui est une petite recherche, une réflexion sur l'histoire de la maison, le répertoire de la maison, les pièces qui ont été créées pour la maison, dont la nouvelle production d'Œdipe d'Enesco, créée à Garnier en 1936 et jamais reprise depuis, qui va faire son grand retour, cette fois à l'Opéra Bastille, dans une mise en scène de Vojtěch Mouhavad, qui lui aussi fait ses débuts à l'opéra. Et après, il y a plein d'autres titres. Platé, de Rameau, Iphigénie en Tauride, Faust, Manon, une nouvelle production de Cendrillon, qui va faire son entrée au répertoire de l'opéra, qui a été donnée à
Cendrillon de Massenet.
De Massenet, qui a été créé à l'Opéra Comique, mais jamais donné ni à Garnier, ni à Bastille. Du coup, on essaie d'enrichir le répertoire de l'opéra avec des titres qui n'ont pas été présents, jamais, ou depuis longtemps, comme la nouvelle production de Turandot de Puccini ou les Noces de Figaro de Mozart, qui nous ont manqué dans le répertoire depuis un petit moment.
Donc vous avez un peu fait la chasse aux grands standards, aux grands tubes de l'Opéra de Paris ?
Oh, pas nécessairement. Je dirais pas que Œdipe, c'est un grand tube. Ça deviendra peut-être un grand tube.
Non, l'inverse, il n'y a pas Aïda, il n'y a pas Rigoletto, il n'y a pas La Flûte Enchantée, il y a beaucoup de raretés.
Bon, il y a les Noces de Figaro, il y a Faust, il y a Turandot. voilà, je dirais, il y a des tubes quand même.
Première, beaucoup de premières, première programmation, première fois. Vous avez cité, Wajdi Mouawad, d'autres metteurs en scène, des premières aussi pour des chanteurs. Vous aviez envie de ça, de donner un pied à l'étrier, que ce soit à des ouvrages, à des metteurs en scène, à des chanteuses, des chanteurs, des chefs aussi?
Bon, j'ai toujours envie de travailler avec des gens avec lesquels j'ai jamais travaillé. Et il y a toujours la liste. D'habitude, est toujours plus longue que ce qu'on pourrait réaliser au niveau répertoire, au niveau artiste, chanteur, chef d'orchestre, metteur en scène. Mais avec une grande saison comme à l'Opéra de Paris, il y a toujours des désirs qui restent, ce qui est bien, parce qu'il faut quand même qu'on garde un peu la fin pour avancer, pour toujours développer de nouveaux projets. Je pense qu'il faut aussi qu'une programmation soit conçue pour une maison. Je pense on programme pas d'une manière générique de la même façon partout au monde. Ça veut dire il y a des gens avec lesquels j'ai jamais travaillé, mais j'ai voulu vraiment travailler avec eux ici. Après, il y a d'autres gens comme Christophe Ardikowski qui sont des habitués de la maison, qui reviennent et qui reviendront dans le futur. Et il s'agit vraiment d'élargir un peu le cadre, si vous voulez, de répertoire, d'artistes, etc.
À propos des chanteurs, des chanteuses, des chanteurs du casting vocal, vous avez été d'ailleurs vous-même directeur de casting à l'Opéra de Paris. Il n'y a pas énormément de grandes stars. Est-ce que c'est un choix anti-star system? Est-ce que c'est la conséquence du fait que vous êtes arrivé tard et que beaucoup de chanteuses et chanteurs sont programmés des années à l'avance? Ou est-ce que c'est une décision économique parce que ça coûte moins cher?
Déjà, c'est une évidence pratique. On a eu environ 18 mois pour établir cette programmation, ce qui est extrêmement court. Je suis très très fier de ce qu'on a pu établir dans ce temps. Il y a quand même les Anita Rachvelishvili, des très grands noms, des Peter Matthey, et d'autres qui vont revenir. Après, il faut pas s'inquiéter pour quelques noms que vous trouvez peut-être pas dans cette brochure. Ils reviendront.
Est-ce que, d'ailleurs...
Il n'y a certainement pas une politique anti-star, parce que, comme je l'ai dit avant, il faut que l'Opéra de Paris soit sinon la maison des stars, mais la maison des grands artistes connus ou les grands artistes futurs qu'on présente sur nos scènes pour la première fois.
Est-ce que le public d'ailleurs vient pour une nouvelle mise en scène, pour une star lyrique, ou est-ce que les gens ils vont tout simplement pas d'abord à l'opéra?
Je pense que ça dépend. Effectivement, on essaie d'offrir beaucoup pour beaucoup de gens. C'est important. Il y a des gens qui viennent pour les distributions, d'autres qui viennent pour le côté théâtre, pour les mises en scène, d'autres qui viennent pour un certain répertoire, mais pas pour d'autres pièces. C'est pour ça que la programmation se veut riche et variée.
Beaucoup de reprises également, vous l'aviez dit ici quand vous étiez venu en début d'année, il s'agissait de faire aussi du théâtre de répertoire, de faire revivre des spectacles créés il y a longtemps, quelque chose qui a un peu disparu, par exemple ce Gluck de Varlikovsky, Iphigénie en Tauride, qui date d'il y a 15 ans.
Qui est maintenant devenu un classique de la maison. C'est une production que j'ai aidé à créer quand j'étais directeur de casting et dont je suis toujours fier. Et pour Christophe, c'était ses débuts à l'Opéra de Paris. Elle revient avec une nouvelle production de Quiet Place de Bernstein qui a été écrit, je veux dire, 200 ans plus tard et qui raconte aussi l'histoire d'une famille un peu dysfonctionnelle.
On y reviendra tout à l'heure. Je vous propose qu'on s'arrête il y a 15 ans, puisque c'est bien aussi de regarder dans le passé. Les micros de France Musique étaient déjà là pour enregistrer cette création de cette nouvelle production d'Iphigénie en Tauride. C'était à Garnier en 2008. extrait d'Iphigénie en Tauride de Gluck. C'était la reprise en 2008, la première reprise à Garnier avec la voix de Stéphane Degout, le chœur et l'orchestre de l'Opéra de Paris, qui était dirigé par Yves Monton et c'était enregistré par France Musique à cette époque. Reprise donc de cette Iphigénie en Tauride à Garnier par Varlikovski la saison prochaine. Alexander Neff, c'est l'un des 21 ouvrages lyriques que vous avez programmés. Il y a quand même un certain nombre de grands noms qui arrivent, qui reviennent, et notamment, vous avez réussi, vous avez convaincu Bob Wilson de refaire un opéra.
Bob Wilson fait son retour à l'Opéra de Paris avec cette très belle production de Turandot que nous avons coproduit avec quelques autres théâtres au monde. C'est une pièce qui nous manquait dans le répertoire pendant presque 20 ans. Ce qui est assez étonnant qu'une pièce comme Turandot n'a pas été donnée à Paris depuis aussi longtemps. Et ça nous donne aussi l'opportunité de la présenter avec Gustavo Dudamel, le nouveau directeur musical, pour ses débuts en fausse comme directeur musical.
Quel sera le rôle de Gustavo Dudamel, en plus de diriger ses productions? Il y aura également Les Noces de Figaro, on en parlait tout à l'heure. Il arrive, c'est un des plus grands chefs, une des stars de la baguette, mais il y a aussi une mission que vous lui avez confiée ou une direction que vous voulez prendre avec lui à l'Opéra de Paris, Alexander Neff?
Il y en a plusieurs. Il y a déjà le soin de l'excellence musicale qui sera le sien, dont il s'occupera pas seulement pour ses productions à lui et ses concerts, mais aussi en général superviser, de surveiller, d'inspirer le travail de l'orchestre et des chœurs. Mais après, il y a un volet de transmission et d'éducation qui faisait partie de nos débats dès le début. La conquête de nouveaux publics, l'éducation artistique, c'est des projets qu'il va développer avec l'Académie, qui a déjà un programme très, 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 très solide depuis très longtemps. Mais effectivement, dans la période que nous vivons, aller à la reconquête des publics que nous n'avons pas vu depuis trop longtemps, et de créer un projet solide autour des nouveaux publics, travailler sur la diversité, à mon avis, ce sera de plus en plus important pour justement assurer la pérennité de la maison.
Gustavo Dudamel dirigera la saison prochaine à l'Opéra de Paris, Les Noces de Figaro et Turandot. Il était notre invité il y a quelques semaines. Voilà ce qu'il nous disait, écoutez bien.
Yo soy una persona muy optimista.
Il faut commencer par dire que je suis une personne très optimiste. Alors j'ai des priorités, bien sûr, mais malgré cela, il faut laisser de l'espace à l'imagination, être créatif et très flexible, et partir de là avec ce que l'on pense. Et je crois qu'il y a un champ des possibles qui est énorme, notamment ouvrir le répertoire, passer à quelque chose de plus éducatif, social, savoir qu'est-ce qu'est l'art pour une communauté, pour la société. Alors, nous avons une grande tradition au sein de l'opéra, mais aussi de nombreuses possibilités dans cette merveilleuse maison. Je crois que l'on peut faire quelque chose de unique et transcendantal.
Alexander Neff, il synthétise bien ce que vous venez de nous dire depuis 8h25. Ici, Gustavo Dudamel, notamment cette ouverture petit à petit.
Bon, écoute, c'est quelque chose qu'il a vécu dès le début de sa carrière. Et dès le début, quand effectivement son nom apparaissait comme une des possibilités pour la direction musicale, pour la succession de Philippe Jordan, qui a fait un travail magnifique pour notre maison pendant très très longtemps, plus que 10 ans. C'est ça qui m'intéressait, que c'est pas seulement que Gustavo, il n'est pas seulement un grand chef, mais c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse au rapport de l'art à la société. Et pour nous, de ne pas oublier ce rapport, on n'est pas seulement là pour produire des divertissements. On est là pour chercher un lien avec la société, pour être en phase avec la société et répondre à la société avec nos spectacles.
La société dans toute sa diversité. Un rapport a été remis, qui avait été commandé sur la diversité à l'Opéra de Paris. Quelles seront ces suites concrètes? Je ne sais pas, une ou deux choses qui peuvent être mises en place dès la saison prochaine?
Il y a, vous l'avez aperçu peut-être, il y a certains choix de casting qui peut-être montrent une certaine ouverture vers des artistes qui ne sont pas venus. C'est pas seulement des choix de diversité, mais aussi, il y a environ 70 débuts à l'opéra dans la prochaine saison, ce qui est important. Après, effectivement, il y a un travail en interne, ce rapport sur la diversité que nous avons commandé, qui nous a été remis. C'est tout d'abord une aide à prise de conscience de la maison, que c'est un sujet auquel il faut s'intéresser et qui a été très très bien reçu au sein de la maison. Je pense qu'il a mis en valeur les éléments de diversité qui existent déjà au sein de la maison et qui nous permettent de tracer un chemin pour le futur.
Diversité. De programmation également, de Mozart à Handel, de Gluck à Berg et jusqu'à Courtag, fin de partie. Tiens, on écoute un petit extrait. Opéra de Paris, fin de partie de Courtag, un compositeur vivant la saison prochaine à l'Opéra de Paris, mise en scène par Pierre Audi. Et donc cet enregistrement qui date de 2018, c'était la création à la Scala de Milan. C'est presque de la création, en tout cas c'est de la musique contemporaine, ça c'est sûr et certain. C'est important aussi de programmer ça, Alexander Neff, mais en même temps, est-ce que le public va venir? Il faut aussi remplir les caisses.
Je pense qu'il faut les deux, toujours. Il ne faut pas abandonner cette ambition de créer de nouvelles œuvres. Ce qu'on fait d'ailleurs dans quelques jours avec le Soulier de Satin à Garnier, qui est aussi un projet très ambitieux, surtout en temps de crise, ou donc en temps de sortie de pandémie. Et pour Courtag, je trouvais que si une pièce comme fin de partie existe, en français, sur un texte de Beckett, il y a une relation tellement forte à Paris. Et Courtag, c'est un des plus grands compositeurs vivants, encore vivant, il a 96 ans. Je voudrais vraiment que ça fasse partie de cette programmation pour justement, on peut tracer un chemin qui commence avec la production du Couronnement de Poppée de Monteverdi en 1642. C'est jusqu'à fin de partie en 2018, ça veut dire on trace presque 400 ans d'histoire d'opéra.
Alexander Neff, directeur général de l'Opéra de Paris, présente sa programmation. Les abonnements ont ouvert. Il y a aussi beaucoup maintenant de spectacles qu'on achète comme ça pour à l'unité. D'ailleurs, ça marche encore en 2021, des abonnements à l'Opéra de Paris?
Nous avons commencé à vendre hier. Et nous avons bien vendu pour une première journée. Alors je crois, nous avons aussi créé des nouveaux avantages pour des abonnés qui sont effectivement nouveaux cette année pour inspirer les gens de retrouver leur maison. Et on a bon espoir que ça va très bien marcher.
Vous avez compris qu'on va finir par parler quand même un petit peu d'argent. À combien s'élève la dette de l'Opéra de Paris aujourd'hui?
Techniquement, l'Opéra de Paris n'a pas de dette. Effectivement, nous avons, comparé à d'autres théâtres nationaux, un modèle économique différent. Parce que la subvention publique, depuis plus que 10 ans, ne couvre plus les coûts fixes. Du coup, quand nous ne pouvons pas jouer, nous commençons à perdre beaucoup d'argent tout de suite, ce qui s'est passé déjà en 2020, où nous avions des pertes de 90 millions d'euros que nous avons réussi à équilibrer plus ou moins avec environ 45 millions d'euros d'économie, une aide exceptionnelle de l'État de 41 millions. Du coup, on s'en est sorti avec un petit déficit. Après, pour l'année 2021, beaucoup dépend de la reprise. Il y avait des aides de l'État, une aide exceptionnelle de l'État qui a été annoncée de 15 millions, mais ça se supposait une reprise normale à partir de janvier. Alors nous savons tous que cette reprise ne s'est pas faite. Et du coup, nos projections, c'est plutôt des pertes d'environ 50 millions d'euros pour l'année 2021, si tout se passe bien avec la reprise. Du coup, il y a déjà, c'est en cours, des échanges avec l'État sur
de possible
comment on va régler ce problème.
Votre prédécesseur Stéphane Lissner avait développé le mécénat. Le mécénat a-t-il fondu depuis non seulement la pandémie, mais avant la pandémie, il y a aussi eu une crise sociale à l'Opéra de Paris?
Le mécénat s'est affaibli un peu pendant la pandémie parce que des fois c'est difficile de retenir ce soutien quand on ne peut pas proposer des spectacles. En même temps, depuis que nous avons commencé à parler de la reprise d'une saison 21-22 qui se dessine, la nomination d'un nouveau directeur musical avec Gustavo Dudamel, les mécènes se manifestent. Il y a un soutien très fort des mécènes qui, pour la plupart, sont rester très fidèle, très loyal pendant la crise et qui maintenant ont envie de nous aider, de nous remettre en marche.
Je me souviens en début de saison, quand vous êtes arrivé, il y avait le ministère de la Culture qui avait commandé un rapport à Georges-François Hirsch et Christophe Tardieu, si je ne m'abuse. Il devait arriver en novembre, on est en mai. Vous avez des nouvelles de ce rapport
hein? Le rapport n'a pas été commandé par nous, comme vous le dites, il a été commandé par le ministère. Et la ministre a dit que ce rapport sert comme une aide de décision pour elle. Alors du coup, les conclusions du rapport, les recommandations du rapport sont connues au ministère. Et ils font partie de nos échanges avec le ministère sur le futur. Après, il faut dire très clairement, je pense que personne n'a envie de créer une révolution à l'Opéra de Paris. Il s'agit d'une évolution responsable, économe, de notre modèle de production qui, dans tous les cas, doit se faire crise ou pas. Je pense qu'il faut toujours regarder vers l'avenir. Avec maintenant peut-être un peu plus de prudence qu'avant, mais nous n'avons pas peur de ces échanges pour effectivement améliorer notre fonctionnement.
Et on posera la question à Rosine Bachereau quand elle sera à ce micro, à votre place, Alexandre Derneff. Pas de révolution, mais il y a quand même un avant et un après Covid, y compris pour l'Opéra de Paris.
Il y a certaines. Moi, je pense qu'il y a un avant et après Covid pour tout le monde. Et il faut pas dire qu'on va simplement retourner à la vie d'avant. Déjà, c'est jamais possible. On peut jamais aller en arrière. Après, je pense qu'il y a un projet qui peut se dessiner, un lien plus fort entre notre art et la société. On espère bien que nous avons manqué aux gens. Les gens nous ont manqué, ça c'est sûr. Et qu'on parlera par nos spectacles plus fort et que nous allons contribuer à ce qui est quand même une période de guérir, de se rétablir de cette très très longue période, pas seulement de maladies physiques, beaucoup de gens ont été malades, il faut pas l'oublier, mais aussi des effets sur la santé mentale des gens et tout ce qui va suivre.
Et bientôt, le ciel sera bleu comme cette nouvelle brochure de la prochaine programmation 2021-2022 de l'Opéra de Paris. Merci Alexandre Neff d'être venu ce matin sur France Musique. Demain, nous recevrons Léo Varinsky, justement, qui dirige ce soir la reprise avec l'Académie et le viol de Lucrèce au Bouffes du Nord.